L'actualité des Alpes du Sud, le BTP dans les Alpes de Haute-Provence voit l'avenir en gris.
La crise sanitaire a durement frappé les secteurs et les chiffres ne poussent pas à l'optimisme avec une baisse de 41% de logements neufs et des marchés publics en berne de 15%. Le président de la fédération du BTP, Julien Rey, attend les aides de l'État mais n'en voit pas vraiment la couleur.
A vous raison, on essaie pourtant de relancer les bétonnières mais timidement.
Face à un budget restreint, ce seront des petits travaux qui seront menés car la priorité du maire et de réduire les emprunts. Benoît Gauvan veut toutefois faire sortir de terre un nouveau lieu culturel.
Produire de l'énergie grâce au soleil sur l'eau.
C'est une première en France. EDF Renouvelable va construire sa première centrale photovoltaïque flottante sur une retenue hydroélectrique, celle de Lazer. 12 500 habitants pourront être fournis en électricité.
Et puis en sport, Alizée Baron voit le week-end en bronze.
Magnifique exploit pour la championne d'Orcières Merlette lors des mondiaux de ski cross à Idrefalge en Suède. Elle a décroché la troisième place du podium après une saison blanche suite à une blessure au dos. Elle récidive après sa breloque de bronze. C'était en 2019. Météo.
Avec une belle journée encore un peu froide, hein, nous dit Météo France, temps plutôt bien ensoleillé sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, avec encore localement quelques nuages bas, du bêche au Gapensé, mais ça se dissipe en matinée. Les températures, les maxis, comptez 4 à 8 pour les Hautes-Alpes et entre 7 et 9 pour les Alpes de Haute-Provence. La cité scolaire de Barcelonnette pourra ouvrir ses portes normalement ce lundi.
Le virus du Covid-19 a sévi dans l'établissement avec un service de restauration scolaire et des agents placés en quarantaine vendredi. La région a alors envoyé 5 remplaçants en urgence permettant au lycée de poursuivre son fonctionnement. Dès aujourd'hui, la cité rouvre ses portes sans demi-pension. Les internes seront accueillis avec un repas froid. Dès demain, par contre, le service de restauration reviendra à la normale. Une politique de dépistage est mise en place par la région. À ce jour, dans 40 lycées, 6000 lycéens ont pu être testés pour seulement 11 cas positifs.
Ce sera un nouveau mardi de mobilisation devant la gare de Gap.
Les syndicats appellent au rassemblement pour faire plier la SNCF et obtenir la présence d'agents au guichet de la gare dès le premier train jusqu'au dernier. En effet, la crise sanitaire aura permis à l'entreprise ferroviaire de diviser de moitié les horaires d'ouverture, un fait alarmant pour les organisations qui se mobiliseront demain à Gap. Quant au maire de Saint-Véran, dans le Queyras, il ne lâche rien. Depuis que Mathieu Antoine a appris qu'une classe du regroupement pédagogique avec sa voisine Moline était sur la sellette faute d'effectifs suffisants, il a décidé de se mobiliser, de bivouaquer devant son école. Une nouvelle journée de rassemblement sera menée demain avec une mobilisation sur la place de l'église à 15h45.
Les perspectives d'avenir sont floues pour le BTP dans les Alpes de Haute-Provence.
Et le ton n'est pas à l'optimisme. Le secteur du bâtiment fait grise mine face à une crise sanitaire qui ne l'a pas épargné. Même si actuellement les entreprises ont du travail, les chiffres ne sont guère positifs. On observe par exemple une baisse de 41% de logements neufs autorisés entre l'automne 2019 et 2020 dans la commande privée. Même constat au niveau des marchés publics avec moins 15% sur la même période. Le président de la fédération du BTP des Alpes de Provence, Julien Rey, considère donc que le secteur est dans le flou même s'il salue les aides de l'État.
Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Il y a des points très positifs, mais on attend d'avoir comment les choses vont se lancer. C'est-à-dire que l'État a promis des aides à la rénovation énergétique des bâtiments publics, des logements. Mais aujourd'hui, le plan d'action réel n'est pas dessiné et on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va démarrer. C'est des craintes qu'on a. Maintenant, on constate quand même que sur 2020, il y a eu moins de faillites d'entreprises, mais il y a eu un soutien de l'État au niveau des PGE qui était quand même important. Et puis il y a eu un coup d'arrêt de plusieurs mois, ce qui fait que il y a eu énormément de reports de charges, de reports de crédits. Donc ça fausse un petit peu la donne. On craint quand même un effet boomerang de ces mesures. Et d'autant que le PGE, même si c'est des sommes importantes qui ont permis aux entreprises de passer cette crise, faut pas oublier qu'il va falloir le rembourser et sur le papier en une fois.
Julien Rey au micro, Alpin de Michel Bonnefoy. Pour ne rien arranger à la situation, les certificats d'économie d'énergie sont menacés par un projet de décret, projet qui prévoit en effet de supprimer les coups de pouce accordés aux ménages alimentés par ces certificats dès la fin juin pour ceux assurant le financement des travaux d'isolation ou le remplacement de chaudières et de radiateurs.
Et à haut raison, on essaie pourtant de relancer les bétonnières, mais assez timidement.
Face à un budget restreint, ce seront des petits travaux qui seront menées en 2021 comme en 2022. Le nouveau maire, Benoît Gauvan, vise à réduire les emprunts, notamment suite à la réduction des dotations faites aux communes. Depuis le début de son mandat en juin, il a vu l'aboutissement de deux grands projets débutés par la précédente municipalité et qu'ils ont eu la chance de, comme il le dit, pouvoir fignoler et réceptionner.
Deux gros projets qui étaient lancés par la mandature précédente. Le premier, c'était l'aménagement de la police municipale. La police municipale occupait un local sous le kiosque sur la place du village, dans lequel on n'avait même pas de sortie de secours et il n'y avait pas d'accès PMR. Et puis, c'était d'un point de vue humain, difficile à vivre, des fenêtres très hautes. Enfin, c'était un peu une petite grotte. Donc, on a réhabilité un immeuble du centre-ville dans lequel ils sont beaucoup mieux installés. Il y a de vrais vestiaires, il y a des bureaux pour les agents, on a une salle vidéo, enfin voilà. Et puis, le deuxième gros chantier était un chantier sur l'école maternelle, où il fallait agrandir le réfectoire. Donc, il y a eu des travaux à l'intérieur, parce qu'on a, en fait, supprimé la bibliothèque existante pour agrandir le réfectoire. Et du coup, il y a eu la pose d'un modulaire dans la cour pour accueillir cette bibliothèque.
Dans l'immédiat, Benoît Gauvan prévoit la réalisation de nouveaux toilettes publiques sur l'allée Arthur-Gouin, un préau pour l'école élémentaire pour un montant de 33 000 euros, un aménagement pluvial de la rue Joseph-Latil et de multiples travaux de sécurisation des voies qui traversent le village, subventionnés par le département à hauteur de 40%. Des travaux pour améliorer le quotidien des Oraisonnais pour l'heure. Pour autant, le maire ne cache pas ses ambitions avec des projets de plus grande ampleur pour l'avenir.
On a forcément de nombreux projets en tête qui correspondent à ce qu'on avait mis dans notre programme. L'aménagement du centre-ville, il y a tout ce qui concerne... Alors là, ce n'est pas que la commune, ça engage aussi le département, mais ce qui concerne l'aménagement de la traversée de ville, parce qu'on a quand même des problèmes de circulation à l'intérieur du village. Et puis, la création d'une cuisine centrale, d'un écoquartier, ça c'est des choses qu'on est encore en train de signaler, mais on a aussi quand même en projet avec la DLVA de la création d'une salle culturelle à la hauteur de la ville qui puisse porter des événements à portée des LVA. Ça sera sûrement pas cette année parce que c'est quand même un projet assez lourd, mais on a fait plusieurs petites réunions de travail pour commencer à savoir quelle dimension pour la salle, quels sont nos besoins, quelles sont les contraintes, qu'elles soient budgétaires ou en termes d'implantation, etc. Enfin voilà, on travaille aujourd'hui là-dessus, c'est quelque chose qui mûrit petit à petit.
Des propos recueillis par Manon Mathieu. Notez que ce nouveau lieu culturel serait un atout pour l'agglomération puisqu'il agrandirait vers le nord l'offre centrée aujourd'hui sur Manosque et Gréoux-les-Bains.
Alors, certains trouvent en revanche que l'on bétonne trop, et notamment dans les Hautes-Alpes.
C'est l'accusation d'Extinction Rébellion. Ce mouvement international de désobéissance civile qui lutte contre le réchauffement climatique a des militants dans le département. Et ces derniers s'opposent au projet immobilier Les Toits de Charence à Gap. Plusieurs appartements verront le jour. Un non-sens pour le groupe, alors que les habitations seraient achetées selon lui par des personnes extérieures au département. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de réel besoin de loger des Gapensais, poursuit-il. Il demande l'arrêt immédiat du projet et un moratoire auprès de la mairie. En parlant de réchauffement climatique, et si l'on plantait un pistachier, c'est la bonne action de l'association Act for Planet qui agit dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle a offert 30 plants de pistachiers répartis dans des vergers de Réillanne, Saint-Martin-les-Eaux et Saint-Martin-de-Castillon dans le Vaucluse. Une autre collection de 7 variétés sera aussi plantée ce mois-ci à la Thomassine à Manosque. Alors pourquoi un pistachier? Eh bien, cet arbre arrivé en France au XVIIe siècle, a connu un vif succès en Provence jusqu'à la fin du XIXe. Il a progressivement disparu car peu rentable. Aujourd'hui, sa production est relancée par les chambres d'agriculture pour relocaliser les cultures et consommer local.
C'est une première en France. EDF Renouvelable va construire sa première centrale photovoltaïque flottante sur une retenue hydroélectrique.
C'est celle de Lazère qui a été choisie. Pour ce projet novateur, EDF Renouvelable y travaille depuis la fin de l'année 2017. Cette centrale de 24 hectares va couvrir environ les 2/3 de la surface de la retenue. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique de plus de 12 500 habitants. Les travaux vont débuter durant le mois de mars. La mise en service de la centrale est programmée pour le printemps 2022. Nicolas Ruffini est le directeur de projet à l'agence d'Aix-en-Provence d'EDF Renouvelable.
Il faut imaginer qu'il va y avoir en tout 50 000 panneaux et plus de 50 000 panneaux qui vont être posés sur des flotteurs sur l'eau. Et la particularité de cette installation par rapport à des installations classiques de centrales au sol ou même des d'autres installations flottantes, c'est qu'on est déjà sur une retenue qui a une production d'hydroélectricité. Et sur cette retenue-là, on vient ajouter une deuxième production d'énergie renouvelable qui est le solaire photovoltaïque. Tout l'aspect novateur de cette technologie repose par rapport aux enjeux de sécurité et de sûreté qu'on a dû appréhender de manière très précise pour pouvoir concilier l'activité hydroélectrique qui est déjà existante sous cette retenue qui est totalement artificielle et une nouvelle source d'énergie renouvelable, donc le solaire photovoltaïque.
Des propos recueillis par Aurore Valoury.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Et un week-end de bronze pour Alizée Baron.
C'était un magnifique exploit qu'a réalisé la championne d'Orcières Merlette lors des mondiaux de ski cross à Idrefals en Suède. Elle a décroché la troisième place du podium derrière les deux références, la Suédoise Sandra Näslund et la Suissesse Fanny Smith. Une belle victoire après une saison blanche suite à une opération du dos. C'était probablement l'une des courses les plus difficiles de ma carrière en raison des conditions compliquées et du vent, expliquait Alizée Baron à son arrivée. Elle récidive donc puisqu'en 2019, elle avait déjà décroché le bronze durant les mondiaux.
Et le dévolu lui aura donc porté chance.
La grande trace a vu la victoire par deux fois du Savoyard François Den lors de la Vertical Race des championnats du monde master de ski alpinisme, puis lors de la course individuelle ce dimanche. C'est donc un deuxième titre de champion du monde pour lui. Notez la belle performance sur ce parcours du haut alpin. Julien Michelon qui finit troisième. Chez les femmes, c'est la Slovaque installée à Gap, Mariana Jagersikova, qui s'est couverte d'or à super dévolu.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.